Alexandre VI, placé au centre de ce vaste tremblement de terre dont l'Italie n'avait point encore ressenti les premières secousses, avait profité de la préoccupation instinctive des esprits pour donner un premier démenti au fameux discours que nous avons rapporté en créant cardinal Jean Borgia, son neveu, qui, sous le pontificat précédent, avait été nommé archevêque de Montréal et gouverneur de Rome. Cette promotion accomplie sans murmure, attendu les antécédents de celui qui en était l'objet, fut une espèce d'essai que tenta Alexandre VI et qui, par sa réussite, l'engagea bientôt à donner à César Borgia l'archevêché de Valence, bénéfice dont lui-même avait joui avant son élévation au pontificat. Mais ici, la difficulté vint de la part de celui qui recevait le don. Le bouillant jeune homme, qui avait tous les instincts et tous les vices d'un capitaine de condottieri, avait grand-peine à s'imposer l'apparence même des vertus d'un homme d'église, mais comme il savait, de la bouche de son père même, que les hautes dignités séculières étaient réservées à son frère aîné, il se décida à accepter ce qu'on lui donnait, de peur de ne point obtenir autre chose. Seulement, sa haine pour François s'en augmenta, car dès lors, il était deux fois son rival, rival en amour et rival en ambition. Tout à coup, Alexandre VI vit, au moment où il s'y attendait le moins, revenir à lui le vieux roi Ferdinand. Le pape était trop habile aux politiques pour accueillir ce retour avant d'en connaître les causes. Bientôt, il apprit ce qui se tramait à la cour de France contre le royaume de Naples et tout lui fut expliqué. Ce fut alors à son tour d'imposer des conditions. Il demanda l'accomplissement du mariage de Guifry, son troisième fils, avec Doña Ascencia, fille naturelle d'Alphonse. Il demanda qu'elle apportât en dot à son époux la principauté de Squillace et le comté de Cariat, avec 10 000 ducats de rente et la charge de pronotaire, qui était un des 7 grands offices de la couronne, indépendant de l'autorité royale. Il demanda pour son fils aîné, que Ferdinand le catholique venait déjà de nommer duc de Gandie, la principauté de Ticarico, les comtés de Chiaramonte, Lauria et Carinola, avec 12 000 ducats de rente et le premier des 7 grands offices qui viendraient à vaquer. Il demanda que Virginio Orsini, qui était son ambassadeur près de la cour de Naples, obtint le troisième de ses grands offices, qui était celui de connétable, c'est-à-dire le plus éminent de tous. Enfin, il demanda que Julien de la Rovere, un des 5 cardinaux qui avait protesté contre son élection et qui s'était fortifié à Ossie, où le chêne qui lui avait donné son nom et qui forme ses armoiries, est encore sculpté sur tous les murs, fut chassé de la ville et que la ville lui fut remise. Tout ce que demandait Alexandre VI lui fut accordé. En échange, Alexandre VI s'engagea seulement à ne point retirer à la maison d'Aragon l'investiture du royaume de Naples qui lui avait été accordée par ses prédécesseurs. C'était payer un peu cher une simple promesse, mais de cette promesse, si elle était tenue, dépendait la légitimité du pouvoir de Ferdinand. Car le royaume de Naples était un fief du Saint-Siège. Au pape seul appartenait le droit de prononcer sur la justice des prétentions de chaque compétiteur. La continuation de cette investiture était donc on ne peut plus importante à la maison d'Aragon au moment où la maison d'Anjou se levait à main armée pour la déposséder. Ainsi, depuis un an à peine qu'il était monté sur le trône pontifical, Alexandre VI, comme on le voit, avait largement marché dans l'élargissement de sa puissance temporelle. Il possédait, il est vrai, personnellement, le moins vaste des territoires italiens, mais déjà, par l'alliance de sa fille Lucrèce avec le seigneur de Pesaro, il étendait une main jusqu'à Venise, tandis que, par le mariage du prince de Squillace avec Doña Ascencia et les concessions territoriales faites au duc de Gandie, il touchait de l'autre à l'extrémité de la Calabre. Ce traité, si avantageux pour lui, une fois signé, comme César se plaignait d'être toujours oublié dans la distribution des faveurs paternelles, il fit César cardinal de Santa Maria Novella. Seulement, comme il n'y avait point encore d'exemple dans l'Église qu'un bâtard eût revêtu la pourpre, le pape trouva 4 faux témoins qui déclarèrent que César était fils du comte Ferdinand de Castille. C'était, comme on le voit, un homme précieux que Don Manuel Belchiori, et qui joua le rôle de père avec autant de gravité qu'il avait joué celui d'époux. Quant à la noce des deux bâtards, elle se fit splendidement et riche des doubles pompes de la royauté et de l'Église. Puis, comme le pape avait obtenu que les deux nouveaux époux habiteraient près de lui, le nouveau cardinal César Borgia se chargea de régler la pompe de leur entrée et de leur réception à Rome, à laquelle Lucrèce, qui jouissait près de son père d'une faveur inouïe à la cour des papes, voulait de son côté donner tout l'éclat qu'il était en son pouvoir d'y ajouter. L'un alla donc recevoir les jeunes gens avec une riche et magnifique escorte de seigneurs et de cardinaux, tandis que l'autre les attendait avec les plus belles et les plus nobles dames de Rome dans une salle du Vatican. Là, un trône était préparé pour le pape et, à ses pieds, étaient des coussins pour Lucrèce et Donia Sanzia. De sorte, dit Tommaso Tommasi, que, par l'aspect de l'assemblée et par la conversation qui s'y tint pendant quelques heures, on eût cru plutôt d'assister à l'audience magnifique et voluptueuse de quelques rois de la vieille Assyrie qu'au sévère consistoire d'un pontife romain qui doit, dans toutes les actions qu'il exécute, faire resplendir la sainteté du nom qu'il porte. Mais, ajoute le même historien, si la vigile de la Pentecôte se passa dans ses dignes fonctions, les cérémonies avec lesquelles, le jour suivant, on célébra la fête de la venue du Saint-Esprit, ne furent pas moins décentes et moins selon l'esprit de l'Église. Car voici ce qu'en dit le maître des cérémonies dans son journal quotidien. Le pape vint dans la basilique des saints apôtres et près de lui s'assirent sur le pupitre de marbre où les chanoines de Saint-Pierre ont l'habitude de chanter l'épître et l'évangile, Lucrèce, sa fille, et Sanzia, sa bru, et autour d'elle, à la grande honte de l'Église et au grand scandale du peuple, beaucoup d'autres dames romaines, beaucoup plus dignes d'habiter la cité de Messaline que la ville de Saint-Pierre. Ainsi, à Rome et à Naples, on s'endormait dans l'attente d'une ruine prochaine. Ainsi, on perdait le temps et on dépensait l'or en vaines fumées d'orgueil. Et cela, tandis que les Français, bien éveillés, secouaient déjà les torches avec lesquelles ils devaient incendier l'Italie. En effet, les intentions conquérantes de Charles VIII n'étaient plus un objet de doute pour personne. Le jeune roi avait envoyé aux différents États de l'Italie une ambassade composée de Péron de Bascy, de Brissonnet, de Daubigny et du président du Parlement de Provence. Cette ambassade avait pour mission de demander aux princes italiens leur coopération pour faire recouvrer à la maison d'Anjou ses droits sur la couronne de Naples. L'ambassade s'adressa d'abord aux Vénitiens, à laquelle elle demandait aide et conseil pour le roi son maître. Mais les Vénitiens, fidèles à leur système politique qui les avait fait surnommer les Juifs de la chrétienté, répondirent qu'ils ne pouvaient promettre leur aide au jeune roi, attendu qu'ils avaient à se tenir sans cesse en garde contre les Turcs. Que, quant au conseil, ce serait une présomption trop grande à eux que de donner un avis à un prince entouré de généraux si expérimentés et de ministres si sages. Péron de Bascy, n'ayant pu obtenir d'autres réponses, se tourna vers Florence. Pierre de Médicis l'attendait en grand conseil, car il avait rassemblé pour cette solennité non seulement les 70, mais encore tous les gonfaloniers qui avaient siégé dans la seigneurie pendant les 34 dernières années. L'ambassadeur français exposa sa demande. C'était que la République permit à l'armée française le passage par ses États et s'engagea, contre argent comptant, à lui fournir les vivres et les fourrages nécessaires. La magnifique République répondit que si Charles VIII marchait contre les Turcs au lieu de marcher contre Ferdinand, elle s'empresserait de lui accorder tout ce qu'il désirerait. Mais qu'étant attachée à la maison d'Aragon par un traité d'alliance, elle ne pouvait la trahir en accordant au roi de France ce qu'il demandait. Les ambassadeurs se dirigèrent alors vers Sienne. La pauvre petite République, effrayée de l'honneur qu'on lui faisait de penser à elle, répondit que son désir était de conserver une exacte neutralité et qu'elle était trop faible pour se déclarer d'avance pour ou contre de pareils rivaux, forcée qu'elle serait naturellement de se rattacher au parti du plus fort. Munis de cette réponse, qui avait au moins le mérite de la franchise, les envoyés français s'acheminèrent vers Rome et, introduits devant le pape, lui demandèrent pour leur roi l'investiture du royaume de Naples. Alexandre VI répondit que, ses prédécesseurs ayant donné cette investiture au prince de la maison d'Aragon, il ne pouvait la leur retirer, lui, sans un jugement qui prouva que la maison d'Anjou y avait plus de droits que celle qu'on lui demandait de déposséder. Ensuite, il rappela à Péron de Basqui que Naples étant un fief du Saint-Siège, au pape seul appartenait le choix de son souverain, que, par conséquent, attaquer celui qui régnait à cette heure, c'était attaquer l'Église elle-même. Le résultat de l'ambassade ne promettait pas, comme on le voit, grande aide à Charles VIII, aussi résolut-il de ne compter que sur son allié, Louis Sforza, et de remettre toutes les autres questions à la fortune de ses armes. Une nouvelle qui lui arriva vers ce même temps le fortifia encore dans sa résolution. Il apprit la mort de Ferdinand. Le vieux roi, en revenant de la chasse, avait été atteint d'une toux catarrhale qu'il avait mise en 2 jours à toute extrémité. Enfin, le 25 janvier 1494, il était trépassé à l'âge de 70 ans, après un règne de 36, laissant le trône à Alphonse, son fils aîné, qui avait immédiatement été nommé son successeur. Ferdinand n'avait point menti à son titre d'heureux. Il venait de quitter le monde au moment où la fortune allait changer pour sa famille. Le nouveau roi, Alphonse, n'en était point à ses premières armes. Il avait combattu déjà avec avantage les Florentins et les Vénitiens et avait chassé les Turcs d'Otrante. Il passait en outre pour un homme aussi subtil que son père dans la politique tortueuse en si grand usage alors parmi les cours de l'Italie. De sorte qu'il ne désespéra pas de joindre à ses alliés l'ennemi même avec lequel il était en guerre au moment où les premières prétentions de Charles VIII étaient parvenues jusqu'à lui. Nous voulons parler de Bajazet II. En conséquence, il envoya vers ce prince Camillo Pandone, un de ses ministres de confiance, pour faire comprendre à l'empereur des Turcs que l'expédition de l'Italie n'était pour le roi de France qu'un prétexte de s'approcher des conquêtes mahométanes et qu'une fois sur l'Adriatique, Charles VIII n'aurait qu'un jour ou deux de traversée à faire pour atteindre la Macédoine, d'où, par terre, on pouvait marcher sur Constantinople. En conséquence, ils demandaient à Bajazet, pour soutenir leurs intérêts communs, 6 000 chevaux et autant de fantassins dont ils s'engageaient à payer la solde tant qu'ils resteraient en Italie. Pandose devait être rejoint à Tarente par Georges Busseyard, envoyé d'Alexandre VI, chargé de son côté, au nom du pape, d'appeler les Turcs à son aide contre les chrétiens. Cependant, en attendant la réponse de Bajazet, qui pouvait tarder plusieurs mois, Alphonse demanda une réunion entre Pierre de Médicis, le pape et lui pour aviser aux choses d'urgence. Ce rendez-vous fut fixé à Vicovaro, près de Tivoli, et les trois parties intéressées se trouvèrent réunies au jour convenu. Alphonse, qui, en partant de Naples, avait déjà réglé l'emploi de ses forces de mer et donné à Frédéric, son frère, le commandement d'une flotte de 35 galères, de 18 grands vaisseaux et de 12 petits bâtiments, avec lesquels il devait aller attendre et surveiller à Livourne la flotte que Charles VIII armait dans le port de Gênes, venait surtout pour arrêter avec ses alliés la marche des opérations des armées de terre. Il avait à sa disposition immédiate, et sans compter le contingent que devaient lui fournir ses alliés, 100 escadrons de grosse cavalerie à 20 hommes par escadron et 3 000 arbalétriers et chevaux légers. Il proposait en conséquence de s'avancer immédiatement en Lombardie, d'opérer une révolution en faveur de son neveu Galéas, de chasser Louis Sforza de Milan avant qu'il pût recevoir de secours de France, de sorte que Charles VIII, au moment de passer les Alpes, trouverait un ennemi qu'il lui faudrait combattre au lieu d'un allié qui lui avait promis passage, hommes et argent. C'était à la fois une proposition de grand politique et de hardi capitaine. Mais comme chacun était rassemblé pour ses propres intérêts et non pour le bien commun, ce conseil fut reçu froidement par Pierre de Médicis, qui ne se trouvait plus jouer dans la guerre que le même rôle qu'il avait été menacé de jouer dans l'ambassade et repoussé par Alexandre VI, qui comptait employer les troupes d'Alphonse pour son propre compte. En effet, il rappela au roi de Naples qu'une des conditions de l'investiture qu'il lui avait promise était de chasser le cardinal Julien de la Rovère de la ville d'Ostie et de lui remettre cette ville, ainsi que la chose était convenue. En outre, les faveurs qu'avait values à Virginio Orsini son ambassade de Naples avaient soulevé contre ce favori d'Alexandre VI, Prosper et Fabrice Colonna, à qui appartenaient presque tous les villages des environs de Rome. Or, le pape ne pouvait vivre ainsi au milieu d'ennemis aussi puissants. La chose la plus importante était donc de le délivrer des uns et des autres, attendu qu'il était important que celui-là surtout fût tranquille, qui était l'âme et la tête d'une ligue dont les autres n'étaient que le corps et les membres. Quoiqu'Alphonse eût parfaitement démêlé les motifs de la froideur de Pierre de Médicis et qu'Alexandre VI ne lui eût pas même donné la peine de chercher les siens, il n'en fut pas moins obligé d'accéder à la volonté de ses alliés en laissant l'un défendre les Apennins contre les Français et en aidant l'autre à se débarrasser de ses voisins romagnols. En conséquence, il pressa le siège d'Ostie et donna à Virginio, qui commandait déjà à 200 hommes d'armes du pape, une partie de ses chevaux légers. Cette petite armée devait stationner autour de Rome et maintenir les Colonna dans l'obéissance. Quant au reste de ses troupes, il les divisa en deux parties. L'une qu'il remit aux mains de Ferdinand, son fils, et avec laquelle il devait parcourir la Romagne, afin de presser les petits princes de lever et de fournir le contingent qu'ils avaient promis, tandis que lui, avec le reste, défendrait les défilés des Abruzes. Le 23 avril, à 3 heures du matin, Alexandre VI fut débarrassé du premier et du plus ardent de ses ennemis. Julien de la Rovère, voyant l'impossibilité de tenir plus longtemps contre les troupes d'Alphonse, passa à bord d'un brigantin qui devait le conduire à Savone. Quant à Virginio Orsini, il commença, à compter de ce jour, cette fameuse guerre de partisans qui fit de la campagne de Rome le plus poétique désert qui existe dans le monde entier. Pendant ce temps, Charles VIII était à Lyon, non seulement incertain sur la route qu'il devait prendre pour pénétrer en Italie, mais commençant même à réfléchir sur les chances hasardeuses d'une pareille expédition. Excepté chez Louis Sforza, il n'avait trouvé de sympathie nulle part, de sorte qu'il lui paraissait probable qu'il allait avoir à combattre non seulement le royaume de Naples, mais encore l'Italie tout entière. Il avait dépensé pour ses préparatifs de guerre presque tout l'argent dont il pouvait disposer. La dame de Beaujeu et le duc de Bourbon blâmaient hautement son entreprise. Brissonnet, qui l'avait conseillé, n'osait plus la soutenir. Enfin, Charles VIII avait déjà donné contre ordre à plusieurs corps de troupes qui s'étaient mis en mouvement, lorsque le cardinal Julien de la Rovère, chassé d'Italie par le pape, arriva à Lyon et se présenta devant le roi. Le cardinal accourait, plein de haine et d'espoir, lorsqu'il trouva Charles VIII prêt d'abandonner le projet sur lequel l'ennemi d'Alexandre VI appuyait tout son espoir de vengeance. Il raconta à Charles VIII les divisions de ses ennemis, il les lui montra, suivant chacun son intérêt particulier. Pierre de Médicis, celui de son orgueil, et le pape, celui de l'agrandissement de sa maison. Il lui exposa qu'il avait des flottes toutes armées dans les ports de Villefranche, de Marseille, de Gênes, dont les armements seraient perdus. Il lui rappela qu'il avait envoyé d'avance Pierre d'Urfé, son grand écuyer, pour faire préparer des logements splendides dans les palais des Spinola et des Doria. Enfin, il lui montra le ridicule et la honte qui retomberaient de tous côtés sur lui s'il renonçait à une entreprise proclamée si haut et pour l'exécution de laquelle il avait été obligé de conclure 3 paix aussi onéreuses que celles qu'il avait signées avec Henri VII, avec Maximilien et avec Ferdinand le Catholique. Julien de la Rovère avait visé juste en touchant dans l'orgueil du jeune roi. Aussi Charles VIII n'hésita plus un seul instant. Il ordonna à son cousin le duc d'Orléans, qui fut depuis Louis XII, de prendre le commandement de la flotte française et de se rendre avec elle à Gênes. Il dépêcha un courrier à Antoine de Bessé, seigneur de Tricastel, pour qu'il conduisît à Asti les 2000 hommes d'infanterie suisse qu'il avait levés dans les cantons. Enfin, il partit lui-même de Vienne en Dauphiné le 23 août 1494, traversa les Alpes au Mont-Genève, sans qu'un seul corps de troupes essayât de lui en disputer le passage, et descendit vers le Piémont et le Montferrat, qui étaient en ce moment gouvernés par 2 régentes, les princes Charles-Jean Aimé et Guillaume-Jean, souverains de ces 2 principautés, ayant l'un 6 ans et l'autre 8. Les 2 régentes vinrent au-devant de Charles VIII, l'une à Turin, l'autre à Casale, toutes 2 à la tête d'une cour brillante et nombreuse, toutes deux couvertes de joyaux et de pierreries. Charles VIII, qui savait que, malgré ses démonstrations amicales, toutes deux avaient fait un traité avec son ennemi Alphonse de Naples, les traita toutes deux avec la plus grande courtoisie, et comme elle lui protestait de son amitié, il les pria de lui en donner une preuve. C'était de lui prêter les diamants dont elles étaient couvertes. Les deux régentes ne purent faire autrement que d'obéir à cette invitation qui équivalait à un ordre. Elles détachèrent colliers, bagues et boucles d'oreilles. Charles VIII leur en donna un reçu détaillé et les mit en gage pour 24 000 ducats. Puis, muni de cet argent, il se remit en route et se dirigea vers Asti, dont le duc d'Orléans avait conservé, comme nous l'avons dit, la souveraineté, et où vinrent le rejoindre Louis Sforza et son beau-père, le prince Hercule d'Est, duc de Ferrare. Ils amenaient avec eux non seulement les troupes et l'argent promis, mais encore une cour composée des plus belles femmes de l'Italie. Les bals, les fêtes et les tournois commencèrent avec une magnificence qui surpassait tout ce qu'on avait vu jusqu'alors en Italie. Mais tout à coup, ils furent interrompus par une maladie du roi. C'était la première manifestation en Italie de la contagion rapportée par Christophe Colomb du Nouveau Monde et que les Italiens appelèrent le mal français et les Français le mal italien. Ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'une partie de l'équipage de Christophe Colomb, qui était de Gênes ou des environs, avait déjà rapporté d'Amérique cette étrange et cruelle compensation de ses mines d'or.